VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La Cour suprême de la Grande-Bretagne a unanimement jugé illégal aujourd'hui la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson et estimé qu'il devait à nouveau siéger dès que possible. Une décision spectaculaire et une défaite majeure pour le Premier ministre. Les 11 juges ont décidé à l'unanimité que l'avis de Boris Johnson demandant à la reine Elisabeth II de suspendre le Parlement pendant 5 semaines jusqu'au 14 octobre, à 2 semaines du Brexit, était illégal, nul et non avenu. Le président de la Chambre, John Bercow, a aussitôt déclaré qu'elle devait se réunir sans délai et qu'il allait consulter à cet effet les chefs des différents partis politiques de toute urgence. Aussitôt, le leader du parti d'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a appelé Boris Johnson à démissionner. Les ministres de l'Intérieur de 5 pays de l'Union européenne se sont entendus lundi sur un nouveau mécanisme de répartition des migrants secourus en Méditerranée. Le projet sera présenté le 8 octobre aux ministres de l'Intérieur des 28 États membres. Les détails de l'accord n'ont pas été communiqués, mais selon la ministre italienne de l'Intérieur, l'idée est de répartir les migrants sauvés dans les 4 semaines qui suivent leur débarquement. Les demandes d'asile seraient ensuite traitées dans les pays d'accueil. Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre aujourd'hui, 24 septembre, au siège de l'ONU à New York. Il est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'exposer leurs priorités sur la scène internationale et de débattre des questions d'ordre mondial. Nous retrouvons à New York notre correspondante Delly Dico qui a expliqué à Idrissa Seydou Dia le programme de cette journée de mardi à la 74e Assemblée générale de l'ONU.
Dans la matinée, plusieurs présidents vont s'adresser aux tribunes de l'ONU, dont le président américain, égyptien, le président turc et le président nigérian. Mohamedou Bouhari fera partie des premiers présidents à prendre la parole. Il est donc prévu en 5e position ce matin. Et en première position, le premier président qui va s'adresser aux tribunes de l'ONU, ce sera le président du Brésil. Tout le monde attend de voir ce qu'il va dire, surtout dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Brésil est très attendu. Dans l'après-midi, il y aura beaucoup plus de présidents africains, donc le Sénégal, le Rwanda, le Niger et aussi le Maroc prendra la parole. Donc pour la journée, plusieurs discours présidentiels, dont la France et le Burkina Faso, et aussi des conférences en marge se tiendront aujourd'hui sur des thématiques comme la santé ou la bonne gouvernance, dont une conférence très importante de l'OMS. Et en fin de journée, je prévois de prendre part à une conférence sur les femmes et les jeunes filles dans les zones en conflit, notamment en RDC et au Soudan du Sud.
Vous semblez parler du climat comme un des thèmes principaux de cette session de l'Assemblée générale de l'ONU. Y a-t-il d'autres thèmes qui semblent dominants, à votre avis ?
Le grand thème de cette année, c'est vraiment le climat. Et l'autre thème dont on a beaucoup parlé au cours de la journée d'hier, donc lundi, le président Donald Trump s'est rendu à l'Assemblée générale pour parler des libertés religieuses. Il y avait une conférence spéciale à laquelle j'ai pu assister et le président a fait savoir qu'il s'agissait là d'une première et qu'aucun autre président américain n'avait jamais tenu une conférence sur ce sujet, donc les libertés religieuses. Il était là accompagné du vice-président Mike Pence et aussi du secrétaire d'État, Mike Pompeo. Et à ses côtés, il y avait aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a fait des remarques sur l'état des libertés religieuses dans le monde. Et le président Donald Trump, au cours de cette conférence d'environ une demi-heure, s'est dit choqué de savoir que la liberté religieuse est toujours entravée dans de nombreuses parties du monde.
Le président Trump, puisque vous parlez de lui, a fait une apparition surprise au sommet sur le climat.
Oui, tout à fait. C'était une grande surprise puisque les États-Unis avaient décliné de participer à la conférence sur le climat. Seuls 66 États sur les 136 chefs d'État présents à l'ONU hier ont participé. Mais malgré le fait qu'ils n'étaient pas très nombreux, c'était très positif parce que ces 66 États se sont engagés à œuvrer pour une neutralité carbone à l'horizon 2050.
Concernant le climat, il faut quand même rendre hommage aux jeunes qui sont mobilisés pour faire pression sur les leaders du monde, n'est-ce pas?
Tout à fait, il faut rendre hommage aux jeunes et surtout au symbole de cette lutte qui est Greta Thunberg, une jeune suédoise de 16 ans qui vraiment symbolise la lutte des jeunes en faveur du climat et contre le réchauffement climatique. Vendredi dernier, il y avait une manifestation géante à New York et dans plusieurs capitales du monde entier, notamment en Afrique, à Johannesburg, à Nairobi. Et donc ici à New York, les lycéens et même les élèves de l'école élémentaire se sont rendus dans les rues. Ils étaient des milliers pour faire connaître leur ras-le-bol et surtout pour que les dirigeants fassent enfin quelque chose pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ils ont bien expliqué qu'ils attendent des mesures concrètes. Et justement, samedi, il y a eu une conférence de la jeunesse sur le climat pour justement faire écho à la conférence qu'il y a eu hier, lundi, à l'ONU, avec les dirigeants.
Diledico, notre correspondante à New York. Le président vénézuélien Nicolas Maduro, engagé dans un bras de fer politique depuis janvier avec l'opposant Juan Guaido, a annoncé lundi qu'il se rendait ce soir en visite en Russie pour y rencontrer son ami Vladimir Poutine. Aux prises avec la pire crise économique de l'histoire récente de son pays, Nicolas Maduro a affirmé qu'il verrait les dirigeants d'importantes sociétés russes. Le Kremlin avait annoncé cette visite la semaine dernière sans donner de date. La dernière visite en Russie de Nicolas Maduro remonte à décembre dernier et il avait été reçu à Moscou par Vladimir Poutine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Libéria, un pays ravagé par une épidémie d'Ebola, de 2014 à 2016, plus de 10 000 professionnels de la santé ont entamé une grève pour réclamer le paiement des salaires et l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux. Ce mouvement a provoqué l'inquiétude des femmes enceintes et des jeunes mères qui ont manifesté à Monrovia et Kiabadou.
Nous sommes en grève à travers le pays, a déclaré George Williams, secrétaire général de l'Association des travailleurs de la santé du Libéria. Selon lui, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, pas de matériel de protection comme des gants. Il ajoute que les labos ne sont pas équipés et la plupart des travailleurs n'ont pas encore reçu leur salaire de juillet alors qu'il faut payer les frais de rentrée scolaire. Craignant les conséquences de ce débrayage, une quarantaine de femmes enceintes et de jeunes mères de famille ont organisé hier une manifestation près du centre de santé de Duport Road dans le nord de Monrovia. Le ministère de la Santé s'est refusé à tout commentaire. Le Libéria, un des pays les plus pauvres du monde, a été durement éprouvé par les guerres civiles de 1989 à 2003. Le gouvernement du président George Weah, au pouvoir depuis début 2018, n'arrive pas à endiguer l'inflation galopante. Cette morosité de l'économie frappe de plein fouet le secteur de la santé, déjà très sinistré par l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016.
La RDC va recourir à un deuxième vaccin expérimental anti-Ebola dès la mi-octobre, a annoncé hier l'OMS. L'organisation est accusée par Médecins sans frontières de rationner le vaccin des laboratoires Merck, le seul utilisé à ce jour contre l'épidémie. Irénée Armanongo.
Selon l'OMS, ce deuxième vaccin expérimental fabriqué par Johnson & Johnson et qui requiert l'administration de deux injections à 56 jours d'intervalle sera administré à des populations à risque dans des régions de la RDC où il n'y a pas de transmission active du virus Ebola. Très critiqué par Médecins sans frontières pendant l'épidémie en Afrique de l'Ouest pour la lenteur de sa réaction et pour n'avoir pas mesuré l'ampleur de la crise, l'OMS a depuis entrepris une profonde réforme de son fonctionnement. L'ONG accuse cette fois l'agence onusienne de rationner le vaccin des laboratoires Merck tout en relevant que les raisons derrière ces restrictions restent obscures. MSF rejette aussi l'argument d'une crise d'approvisionnement. Merck vient de déclarer qu'en plus de 245 000 doses déjà livrées à l'OMS, ils étaient prêts à envoyer 190 000 autres doses si nécessaire et que 650 000 autres seraient mises à disposition dans les 6 à 18 prochains mois. Pour le moment, l'épidémie de la fièvre à virus Ebola a fait plus de 2100 morts dans l'est de la RDC.
Huit nourrissons sont morts dans la nuit de lundi à mardi en Algérie lors d'un incendie dans une maternité dans le centre-ouest du pays. Le feu s'est déclaré à 3 heures du matin dans l'hôpital mère-enfant Doued Souf, c'est dans le nord-est du Sahara algérien. Georges Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.